Ou en tout le monde. Je n'ai pas eu la chance de donner la main à tout le monde, par exemple, mais c'est bon d'être ensemble. Super, super. Combien de vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? Bon. Donc, on va juste inviter tout le monde qui est dans le corridor de venir aussi. Je ne sais pas si quelqu'un peut les avertir qu'on continue. C'est bon. Donc, si vous avez une Bible avec vous, j'aimerais vous inviter à le prendre. On va voir des belles choses ce matin. Des choses qui vont nous aider à grandir, à croître et atteindre le maximum de notre potentiel. Est-ce que des gens qui aimeraient faire cela? Non, vous êtes un peu fatigué. Est-ce que vous n'avez pas assez dormi pendant les fêtes, c'est ça, hein? Donc, mais ça vaut la peine de se réveiller. Moi, j'ai pas dormi beaucoup pendant les fêtes non plus, hein. J'étais poigné dans le trafic et dans les, sur l'autoroute, etc. Mais, on est en forme, le Seigneur est là, et le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va faire quoi? Il va vivifier votre corps physique même. Amen. Donc, regarde quelqu'un et dit, réveille-toi. Ça va être bon ce matin. Alléluia. Donc, on va prendre notre Bible, on va faire cette déclaration. Et si vous n'avez pas une Bible avec vous, il y a une feuille qu'on vous a donnée à la porte qui contient presque tous les versets qu'on va étudier. Et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le message ce matin est simple mais profond. Soyons résolus. Hein, combien de vous avez déjà dans votre tête une résolution pour 2009? Personne? Des fois, vous savez que c'est pas pire d'avoir une résolution, parce que cela veut dire que vous allez prendre une décision de qualité, quelque chose que vous allez faire, peu importe le prix que ça vous coûte. Amen? Et c'est ça le problème, hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont le désir de faire des choses, par exemple. Bon, en 2009, je vais me mettre en forme, donc, et ils sont tout feu, tout flamme pour les premières quelques semaines. Ils vont même des personnes qui vont, font les inscriptions au gymnase, ils vont commencer à s'entraîner, mais rendus au février, tout d'un coup, ils ont dit que le prix était assez élevé. Dans le sens qu'il faut être discipliné, il faut le faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, bon, mais en 2009, je vais manger mieux, je vais manger moins de gras, moins de sucre, je vais manger plus santé. Et ça dure des fois un certain temps, jusqu'au moment où ils se rendent compte du prix que ça coûte. Et puis ils disent, ah, est-ce que ça vaut la peine? Donc, vous savez qu'il y a certaines choses que peut-être ça vaut pas la peine. Hein, donc, une résolution comme ça, c'est vraiment inutile. Mais si vous vous rendez compte de qu'est-ce que le Seigneur veut que vous fassiez en 2009, et vous réalisez que qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez vaut le coup, vous allez tenir bon, et avec son aide et avec sa grâce et avec sa puissance, vous allez pouvoir atteindre le maximum de votre potentiel. Moi, je sais que, moi, personnellement, 2008, c'est une bonne année, remplie de défis, remplie de problèmes, mais remplie de victoires. Combien de vous savez que vous ne pouvez pas vraiment avoir une victoire si vous n'avez pas eu un combat? N'est-ce pas vrai? Donc, personne ne vous a promis que la vie chrétienne serait une vie rose, qu'il n'y aura pas de difficultés, pas de problèmes, pas de défis. Au contraire, il y a certains défis que vous allez avoir que les autres n'ont même pas. Voici la différence, c'est que vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez toujours gagner. Amen? Donc, on a eu des défis en 2008. On a eu des choses qui allaient bien, des choses qui allaient moins bien, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours en vie, nous sommes toujours victorieux, et nous avons fait du progrès. Et si je regarde en arrière, personnellement, moi, j'ai eu des moments de croissance incroyable, des moments où le Seigneur a pu faire des choses dans ma vie. J'ai vu l'exaucement de nos prières, j'ai vu la main de Dieu agir, j'ai vu la puissance de Dieu manifester, et c'est dans ces moments difficiles, souvent, où on voit cela, n'est-ce pas? Et tout en gardant la joie. Donc, moi, je suis content, dans le fond, des très belles choses qui sont passées en 2008, mais 2009 s'en vient. Incroyable, mais vrai. Moi, j'aurais jamais cru. En 1985, j'étais convaincu que le Seigneur allait revenir chercher l'Église dans quelques ans. Moi, je croyais même pas qu'on serait rendu à l'an 1990. Et quand l'an 2000 est arrivé, je me suis dit, wow, sûrement le Seigneur va venir bientôt. N'oubliez pas une chose, avec le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, n'est-ce pas? Donc, 2000 ans sont déjà passés, et là, on a déjà presque terminé l'an 2008. Et l'an 2009 s'en vient. Mais laisse-moi vous assurer, j'étais à l'aéroport juste hier, je regardais les nouvelles, et je vois les choses qui se passent, et je vois les signes des temps. Encore hier, il y avait des attaques de l'armée israélienne et il y a des choses qui se passent. Laisse-moi vous assurer qu'un jour, on sait que tous les événements de la planète Terre vont être vraiment fixés et centrés sur Israël. Ce tout petit pays, tout petit, qui a l'air de rien du tout sur une carte, tous les yeux de tout le monde vont être fixés sur cette nation. Et déjà, il y a des choses qui se passent. Donc, moi, j'ai vu cela hier, et qu'est-ce qui se passe en Israël? Je dis, wow, encore, dans mon esprit, c'est comme, wow, Seigneur, je sais que tu reviens bientôt. Il y a des choses qui s'en viennent, des choses qui s'en viennent. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Moi, je suis prêt, et je suis prêt à commencer une nouvelle année avec le Seigneur, et je suis prêt à commencer une nouvelle année avec vous aussi. Pas juste tout seul, parce que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui un peu dans la parole de Dieu. Il y a des choses que nous avons besoin de faire ensemble. Et on a des résolutions que nous avons besoin de faire ensemble. La vie chrétienne n'est pas une vie de solitude. C'est pas une vie qu'on va mener toute seule. Nous sommes une famille. Nous sommes un corps. Vous faites partie de moi et je fais partie de vous. Et notre église locale fait partie des autres églises aussi. Nous sommes une grande famille, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses que le Seigneur veut faire sur la terre. Il y a des choses qu'il veut faire dans votre vie personnelle. Mais votre vie personnelle va affecter ma vie. Votre vie personnelle va affecter la vie de toute l'Église. Et la vie ensemble, collective de la vie comblée de cette Église locale va affecter qu'est-ce qui va se passer avec les autres assemblées à Drummondville. Et qu'est-ce qui se passe avec toutes les assemblées à Drummondville va affecter toute la province du Québec. Et qu'est-ce qui se passe au Québec va toucher les autres nations de la francophonie et même au-delà. Donc, je veux qu'on sache ce matin. Donc, le message, c'est vraiment un message cœur à cœur. J'avais, dans mon esprit, il fallait, Tania avait la même chose dans son esprit, qu'il fallait que je sois là aujourd'hui. OK? Même si j'ai dû faire un voyage de 4000 kilomètres pour être là juste pour une journée. Je repars demain matin à probablement 2 ou 3 heures du matin. Donc, je suis là juste aujourd'hui parce que je sais que le Seigneur veut faire quelque chose dans notre cœur collectif. Amen. Et moi, je ne veux pas passer à côté. Et vous? Et c'est pourquoi moi, je prends le temps ce matin. Je veux communiquer vraiment cœur à cœur avec l'aide de l'Esprit Saint, avec la parole de Dieu. On veut recevoir le message qui vient de l'Esprit, l'oracle de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église aujourd'hui? C'est quoi le message? C'est quoi son message? Pas le message du pasteur, mais c'est quoi le message de l'Esprit Saint? Parce que je crois qu'il veut nous parler. Et voici la chose, il faut que nous soyons prêts à entendre ce que celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit à l'Église. Donc, le message que j'ai vraiment reçu dans mon esprit, ce n'est pas un message compliqué. Au contraire, c'est vraiment un message simple. Et depuis quelques mois déjà, on prie et on cherche la face du Seigneur, on cherche la direction de Dieu pour l'Église. Et la chose qui revient toujours dans mon esprit, c'est simplicité. La simplicité. On va parler plus de cela la semaine prochaine. On va parler un peu plus même de la vision, au début de janvier, on va parler un peu plus de la vision, la mission que le Seigneur nous donne pour 2009. Mais aujourd'hui, on veut préparer notre cœur, d'une façon un peu plus générale, à vraiment prendre quelques décisions de qualité quelques résolutions. Je vois cela avec Jésus. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus, au moment donné, il a pris une résolution d'aller à Jérusalem. Il a fixé son but. Il allait se rendre à Jérusalem sans se laisser distraire par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il avait une mission à accomplir, donc il a fixé son but. Donc, même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a pris une décision de terminer, d'achever sa course, de remplir son ministère avec joie. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et donc, voilà, c'est ça qu'on veut être capable de faire aussi, n'est-ce pas? Moi, je veux être capable de rencontrer Jésus un jour et entendre le Seigneur dire, bien fait, bon et fidèle serviteur. Et vous? Et moi, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que pasteur, en tant que membre du corps de Christ, j'ai besoin de penser à toutes ces choses pour que je sois capable d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Et vous n'êtes pas ici tout seul. Vous êtes attaché à Jésus, vous êtes attaché à votre famille, vous êtes attaché à cette église. Et on va faire cela ensemble. Tout le monde dit ensemble. Alléluia. Donc, soyons résolus. Donc, il y a un verset qui est venu dans mon esprit, et je crois que c'est le message pour aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4. Encore, si vous cherchez une nouvelle révélation, vous n'allez pas en avoir une ce matin. Mais si vous cherchez la vérité, et si vous cherchez tout simplement ce que Dieu veut nous dire, je crois vraiment que nous l'avons. Et on veut recevoir cela. Alléluia. Tout le monde dit, j'ai les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit à l'Église. Comme je l'ai dit déjà depuis quelques mois, le mot « simplicité » vient dans mon cœur. Et on va parler de ça, l'importance de vivre une vie chrétienne qui est simple, dans le sens de tout simplement aimer Dieu et aimer son prochain. On a aussi dans notre cœur le verset qui est venu en Jean chapitre 15, qui Jésus a dit « demeurez à moi » et etc. C'est lui qui est la vigne, nous sommes les sarments ou les branches. C'est lui qui est le cep, nous sommes les sarments. Et il a dit que chaque branche qui ne porte pas du fruit, il est retranché, mais chaque branche qui porte du fruit, il est émondé. Donc, le Seigneur est en train de faire en sorte que son Église puisse porter de plus en plus de fruits et que vous puissiez porter de plus en plus de fruits dans votre vie chrétienne. Et avec tout cela, voici le verset pour ce matin, le 28 décembre 2008, pour l'Église chrétienne la vie comblée. Je crois dans mon cœur que c'est le verset que le Seigneur veut qu'on partage ce matin. Éphésiens 4, hein, je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Regarde quelqu'un d'autre et dit, conduisez-vous d'une manière digne de votre appel. Regarde l'autre personne à l'autre côté et dit, je vais me conduire d'une manière digne de mon appel. Donc, on voit dans ce verset une exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens, en train de les exhorter de se conduire d'une certaine façon. Et moi, je suis convaincu que les versets de la parole de Dieu ne sont pas dans la Bible pour juste par hasard ou pour rien, ou parce qu'il y avait un peu plus d'espace sur le parchemin et donc ils voulaient le remplir davantage. Mais chaque parole qui est dans notre Bible est là parce que Dieu l'a inspiré, et il est là pour nous instruire. Il est utile pour nous corriger, pour nous reprendre même, pour nous instruire dans la justice, pour qu'on soit des hommes faits, pour qu'on soit capable d'accomplir parfaitement le plan de Dieu dans notre vie. Alors donc, si l'apôtre Paul, sous le Saint-Esprit, a dit, conduisez-vous d'une manière digne de votre appel, ou digne de votre vocation, c'est-à-dire que, il y a une tendance naturelle chez les chrétiens de ne pas se conduire d'une manière digne. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est-à-dire que si on ne fait pas un effort, si on ne prend pas une décision, si nous ne sommes pas résolus, tout le monde dit résolus, si nous ne sommes pas résolus, on peut passer notre vie chrétienne et marcher d'une manière qui n'est pas digne de notre appel et digne de notre vocation. C'est quoi notre appel? Vous dites, mais moi, je ne suis pas appelé. Oui, tout le monde ici est appelé. Premièrement, la Bible dit que tout le monde est appelé à se repentir, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a pris cette décision de se repentir, donner sa vie au Seigneur, nous sommes appelés à vivre dans la communion avec son Fils. Nous sommes appelés à être saints comme il est saint. Et puis après cela, il y a des appels spécifiques et individus. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être une maman à la maison qui va élever les géants pour le royaume de Dieu. Il y a d'autres qui sont appelés à être des hommes d'affaires qui vont gagner de l'argent tout en gagnant les âmes, et l'argent que vous gagnez va fournir les besoins et va, on pourrait subventionner les missions mondiales, n'est-ce pas? Il y a d'autres que vous êtes appelés à être pasteur, évangéliste, peut-être vous êtes appelés à être missionnaire. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Mais la Bible ici nous exhorte à se conduire d'une manière digne de notre vocation. Amen. Et malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Malheureusement, il y a même des pasteurs qui ne font pas ça. Il y a des personnes partout qui ne mettent pas cette parole en pratique. Mais cette année, pour 2009, je crois que nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de prendre une résolution. Que cette année, je vais faire tous mes efforts pour mener une vie qui est digne de mon appel et qui est digne de notre appel collectif. Amen. Est-ce que je suis en train de dire que c'est que Dieu veut qu'on fasse cela dans notre propre force ou dans la puissance de la chair? Non, il va nous aider. C'est lui qui va nous donner la force nécessaire. Mais dans ce verset, Éphésiens 4, chapitre 1, on a déjà lu, mais on voit plusieurs points principaux. Premièrement, numéro un, comment est-ce qu'on peut marcher d'une manière digne de notre vocation? Numéro un, marchons dans l'humilité. Vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Combien de vous, vous voulez avoir la main puissante de Dieu, vous élever? Est-ce que vous êtes d'accord que la main de Dieu est puissante? Sa main est vraiment puissante et sa main est là pour nous élever au temps convenable si on s'humilie devant lui. Mais la même main qui peut nous élever, qui peut nous faire avancer, la même main qui est pour nous, aussi va nous résister si on marche dans l'orgueil. J'ai déjà donné cet exemple, et Sylvain, tu vas venir, je vais le faire encore parce que, là, il a... Vous êtes supposé de dormir avec vos bottes, hein? Un bon soldat du Seigneur. Mais vous savez que, dans le fond, on voit que dans la parole de Dieu, la main de Dieu est là. Il est pour nous. Il est là pour nous propulser vers la direction ou vers la volonté parfaite de Dieu. On peut imaginer que là, devant Sylvain, c'est le plan de Dieu pour sa vie. C'est le but pour sa vie. Et la main puissante de Dieu est là pour lui donner un coup de main, pour le pousser dans le bon sens. N'est-ce pas bon? On peut avoir la force de Dieu en arrière de nous. On marche dans le bon sens avec la force et la puissance de Dieu en arrière de nous. Mais voici la seule chose. Si, tourne ton débat, si lui ne veut pas suivre le plan de Dieu, s'il veut suivre son propre plan, ou s'il veut même céder à la tentation de la chair et faire les choses que le diable veut qu'il fasse, essaie de marcher dans ce sens-là. Donc là, la même main, est-ce que Dieu a changé de direction? Non, Dieu n'a pas changé de direction. Dieu fait toujours la même chose, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est pas une question que, bon, mais Dieu nous aime et quand on fait des bonnes choses, il va être bon pour nous. Mais quand on est méchant ou on fait des choses pas correctes, là, il va comme tout d'un coup mettre un autre casque et devenir un Dieu méchant, il va nous écraser. Non, la main de Dieu est toujours là et il pousse toujours dans le bon sens et il est là pour nous faire du bien et pour nous bénir. Mais la seule affaire, c'est que on se met dans les positions, des fois, où on est contre Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu devient contre nous seulement quand on n'est pas tourné dans le bon sens. Mais si on peut se repentir et tourner dans le bon sens, Dieu est toujours là pour nous aider et nous propulser vers le plan de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est l'humilité. L'humilité qui dit, OK, Seigneur, ça c'est... Mais tu peux t'asseoir, tu veux rester là si tu veux aussi. Mais... L'humilité, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est tout simplement accepter la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, est-ce que l'humilité, laisse-moi vous donner un exemple de qu'est-ce que l'humilité n'est pas. Un chrétien qui dit, oh, je suis un ver de terre, je suis bon à rien, je peux rien faire, je suis pas bon à rien. Est-ce que ça c'est l'humilité? Non. Ça c'est pas du tout l'humilité, parce que c'est pas vrai, parce que si vous êtes vraiment un chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et selon la parole de Dieu, vous avez un don en vous, que Dieu vous a doué, il vous a rendu capable d'être un ministre de la nouvelle alliance. Et donc, dire que vous êtes bon à rien et que vous pouvez rien faire, ça, ce n'est pas l'humilité, ça, c'est juste un mensonge de l'ennemi que vous répétez. Et il y a d'autres personnes qui disent, eh, moi, j'ai pas besoin de Dieu, je peux tout faire, je suis fort, je suis bon, je suis intelligent, je suis capable, j'ai même pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de consulter Dieu, j'ai pas besoin de demander les choses, non, je vais juste le faire moi-même. Ça, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'orgueil. Donc, c'est quoi la vérité dans tout cela? La vérité, l'humilité, c'est tout simplement accepter la vérité. La vérité que sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais avec lui, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, savez-vous quoi? Des fois, vous pouvez avoir un homme ou une femme de Dieu qui est vraiment humble et les gens autour de lui vont penser qu'il n'est pas humble. Parce qu'ils vont l'entendre dire que, merci Seigneur que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur que je suis en règle avec toi. Merci Seigneur que je puis tout. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible peut entendre quelqu'un dire, je suis co-héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Je suis assis sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Pour qui est-ce que vous prenez? Je me prends pour un enfant de Dieu, sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, quelqu'un qui autrefois était pécheur, pourri, destiné pour l'enfer, mais aujourd'hui une nouvelle création. Donc ça, c'est l'humilité. L'humilité dit, Seigneur, c'est seulement grâce à toi que je suis assis avec toi dans les lieux célestes. C'est grâce à toi. Je n'ai pas mérité, mais je l'ai hérité. Mais je crois que cette année 2009, on a besoin de prendre une résolution de marcher dans l'humilité. Colossiens 3, 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un, oh mais j'ai sauté, pardon, verset 2 de Éphésiens 4, soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec quoi? Avec amour. Puis Colossiens 3, 13 dit quelque chose de similaire, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je crois que vraiment, en 2009, on a besoin, pas juste en théorie, mais en réalité, de marcher dans l'humilité. De savoir que sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut tout faire. Et dans cet esprit d'humilité, on peut honorer nos frères et nos sœurs. On ne peut pas dire, ben moi, je suis mieux que eux. Je ne peux pas dire, comme on a dit, dans la parole de Dieu dit, la main ne peut pas dire, parce que je ne suis pas en pied, je ne suis pas dans le corps, ou vice-versa. Ça, c'est une fausse humilité. Oh, je ne suis pas un prédicateur, donc je ne fais pas grand-chose. Oh, je ne peux pas chanter, je ne suis pas important. Tania et moi, on en parle souvent, et on est convaincus qu'une raison qu'il y a beaucoup des églises qui souffrent et beaucoup des églises qui ont de la difficulté, c'est parce que les églises sont remplies des membres qui ne réalisent pas jusqu'à quel point ils sont importants. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes du péché des fois dans les assemblées? Des personnes, des chrétiens qui vont faire des choses qu'un chrétien ne devrait pas faire. C'est parce que ces chrétiens ne réalisent pas jusqu'à quel point ils sont importants. Donc ils pensent qu'on écoute, ils savent que ça va leur faire mal. Ils savent que si je cède à cette tentation, je vais me faire mal. Mais écoute, ils ont tellement une basse estime de eux-mêmes que c'est pas grave. Mais voyez-vous, ça c'est un problème. Une des raisons pourquoi ils cèdent à la tentation, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé jusqu'à quel point leur vie est importante et leur vie va affecter les vies de ceux qui les entourent. Est-ce que vous me suivez ce matin? Sachez, moi je sais. Si je cède à la tentation et si je commets des péchés, ce n'est pas juste moi qui va souffrir. Ma femme va souffrir. Mes enfants vont souffrir. Toute cette église va souffrir. Tous les étudiants de l'école biblique vont souffrir. toutes les autres personnes avec qui je suis en contact. Et des fois, je dis, oh, vous, vous êtes prédicateur, mais savez-vous quoi? Si vous faites n'importe quoi, si vous faites la bonne chose, vous allez être béni. Votre épouse ou votre mari va être béni. Votre famille, vos enfants vont être bénis. Les collègues au travail vont être bénis. Vos voisins qui habitent à côté de vous vont être bénis. Votre église locale va être bénie. Votre ville, votre province, votre nation, le monde va être changé et béni quand vous êtes béni. Mais le monde va souffrir quand vous cédez à la tentation aussi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et encore, c'est là où on a besoin d'avoir cette attitude d'humilité en disant, Seigneur, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que il faut pas que je pense trop haut de moi-même, mais il faut pas que je pense trop bas non plus. Le juste milieu, c'est que sans toi, je peux rien faire, mais avec toi, je puis tout. On marche dans l'humilité. C'est quoi la deuxième chose qu'on voit pour marcher d'une manière digne de notre vocation? Protégeons l'unité de l'esprit. Et ça, j'ai tiré ça encore de ce même chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'esprit, saint, par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit. Il y a combien de corps? Combien de Saint-Esprit? De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, tu peux souligner le mot règne, qui agit par tous, tu peux souligner le mot agit, et qui demeure en tous, tu peux souligner le mot demeure. Donc là, on voit quelque chose. Si on va vraiment marcher d'une manière digne de notre vocation, premièrement, il faut qu'on marche dans l'humilité. Il faut qu'on se supporte les uns aux autres. S'il y a des choses qu'on voit chez les autres qu'on n'aime pas, écoute, on peut le supporter. On marche dans l'humilité. Mais deuxièmement, on va faire des grands efforts de garder l'unité de l'esprit, de protéger l'unité. Si encore le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul à dire, de efforcez-vous de maintenir, ça c'était en verset 3, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint. Encore, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit avait besoin de dire cela? Efforcez-vous de maintenir l'unité. C'est parce que la tendance est de ne pas être dans l'unité, n'est-ce pas? Donc c'est une exhortation de l'Esprit encore. Je vous donne pas une grande révélation nouvelle que vous n'avez jamais entendue, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire à notre Église? Soyons résolus, prenons une résolution qu'en 2009, nous allons marcher dans l'humilité. Si quelqu'un d'autre gagne, je gagne avec lui. Si quelqu'un perd, je perds avec lui. Si quelqu'un souffre, je souffre avec lui. Si quelqu'un se réjouit, je me réjouis avec lui. OK? Ça, c'est l'humilité. Puis, on garde, on protège l'unité de l'esprit. On sait que notre force est dans l'unité, n'est-ce pas? Je donne toujours cet exemple. C'est qui a une grosse Bible épaisse? Voilà. Vous savez que je pourrais prendre cela comme exemple. Et même si je sais que Marco est très fort, je pourrais lui demander de déchirer toutes les pages de cette Bible. Et est-ce qu'il serait capable de le faire? Non. Pourquoi? Parce que toutes les pages sont collées ensemble. Mais si je divise les pages, pensez-vous qu'il serait capable de déchirer ça? Une feuille qui est tellement mince qu'avec deux petits doigts, il pourrait les déchirer et les tuer complètement. Donc, vous savez que Satan, il est très au courant de la situation. Il sait qu'aussi longtemps que nous sommes collés ensemble, que nous sommes inébranlables et qu'il ne peut pas nous détruire. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous séparer. Et une fois qu'on est séparé et divisé, là, il peut nous avoir. Donc, cette année, en 2009, je crois qu'on a besoin de prendre une résolution que je vais marcher dans l'humilité, je vais aussi protéger, je vais marcher dans l'humilité, je vais protéger l'unité de mon Église. Combien de vous êtes prêts à prendre une résolution de protéger l'unité? Alléluia. Dans notre cours, dès que vous l'avez comme son enfant, on parle de ça. On dit qu'il faut refuser de parler contre les autres, etc. Laissez pas les autres utiliser votre oreille comme une poubelle, n'est-ce pas? Mais il y a trois choses dans ce verset, dans verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Je pense que si on regarde ces trois mots, règne, agit et demeure, ça peut nous aider à garder l'unité de l'esprit aussi. Pourquoi? Regardons ceci. Dans vos notes, reconnaissez que Dieu règne sur tous. Comment est-ce que ça peut nous aider à garder l'unité? Quand je réalise que chacun de vous, vous appartenez à Jésus, et que Jésus est votre Seigneur, moi, j'ose pas toucher au serviteur de quelqu'un d'autre, et vous? C'est comme, laisse-moi vous dire, ma femme, mon épouse, je l'aime, je la chéris, et si vous voulez faire mal à mon épouse, laisse-moi vous dire, vous aurez un prix à payer. Non, c'est ça. Et savez-vous quoi? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Chacun de vous, vous êtes dans son corps, vous êtes membre de son corps, vous êtes serviteur de Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup en Romains 14, 4. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, tout le monde dit son maître, a le pouvoir de le faire tenir. En 2009, laisse-moi vous dire quelque chose. C'est trop facile, Église. Je parle surtout aux chrétiens ce matin. Je sais que le style de message, c'est peut-être un peu différent, mais j'ai vraiment dans mon esprit ce message simple, cœur à cœur. C'est votre pasteur qui parle parce que je vous aime. Et moi, je vais aller de l'avant. Mais c'est trop facile de regarder les autres, d'être offensé par les autres, de juger les autres, mais je comprends pas comment il vit comme ça, ou comment il fait ceci, ou il fait cela. Et trop facile de juger les autres. Qu'est-ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 7? C'est pas dans votre note, mais on va le voir en Matthieu chapitre 7. Alléluia. Si vous voulez regarder, on va revenir en Éphésiens 4 dans une minute. Mais en Matthieu chapitre 7, on voit Jésus qui nous donne encore les instructions. Donc, je pense que pour garder l'unité de l'esprit, il faut savoir que le Seigneur est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il est le maître, c'est lui qui est en autorité. Et c'est pas à moi de juger, de critiquer quelqu'un qui appartient à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Donc, là, vous êtes là, mais moi, je ne suis pas là. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la quoi? La paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Imaginez ça, hein, quelqu'un qui a deux paquettes dans son œil. Et toi, tu as un petit brin de quelque chose qu'à peine avec une loupe, tu es capable de voir. Hey, il me semble que tu as quelque chose dans ton œil. Oui, mais toi, tu as deux paquettes. Et souvent, qu'est-ce que j'ai découvert? Si tu vois une petite paille dans l'œil de quelqu'un d'autre, un petit brin d'ici, quelque part, normalement, c'est juste le reflet du poutre qui est déjà dans ton œil. Et une fois que vous enlevez le deux paquets et vous regardez encore votre frère, vous allez voir, c'est drôle, il me semble que j'ai vu quelque chose tantôt, mais je ne le vois plus. C'est juste le reflet de ta poutre. Donc, regardez cela comme faux cette année. Soyons résolus. C'est trop facile de regarder les autres, de les juger. OK? Il y a certaines choses qu'on est appelé à juger. Ça, c'est une autre histoire. On doit juger la doctrine. On doit juger certaines choses dans l'Église. Mais là, on parle de critiquer, de regarder les autres qui appartiennent à Jésus lui-même et d'essayer de régler toutes leurs affaires tout en étant en désordre soi-même. C'est pas bon. Est-ce que vous êtes prêt à prendre une résolution cette année, à dire, Seigneur, je veux que tu travailles dans ma vie, dans mon corps. Savez-vous quoi? C'est pas juste dans l'Église. Souvent, c'est encore pire dans les mariages. N'est-ce pas vrai? Monsieur, n'est-ce pas vrai que c'est pas toi le problème, c'est ta femme, n'est-ce pas? Et madame, c'est pas toi le problème, c'est ton mari, hein? Si on peut apprendre à dire, Seigneur, je vais essayer de te donner la chance de changer mon cœur, ma vie, et je vais laisser ma femme entre tes mains, ou je vais laisser mon mari entre tes mains, parce que, dans le fond, c'est toi qui es son maître, c'est pas moi qui es son maître. Amen? Donc, gloire à Dieu. Donc, ça, c'est une chose. Il est au-dessus de tous, ou il règne sur tous. C'est quoi l'autre chose? Reconnaissez que Dieu agit par tous. On parle toujours de protéger l'unité de l'esprit. Reconnaissez que Dieu agit par tous. Regardons Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en... La puissance, est-ce que la puissance agit juste en toi ou en moi, ou est-ce que la puissance agit en nous? Donc, voyez-vous, l'action de l'esprit, le mouvement même de Dieu, on pourrait dire la force et la puissance de Dieu est relâchée collectivement, pas juste individuellement. Nous avons besoin d'être ensemble afin de faire quelque chose. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. En 2009, ça c'est une autre chose qu'on a reçue dans l'esprit, quand on prie pour cette année qui s'en vient. La simplicité que Dieu veut nous émonder, et aussi qu'on a besoin de travailler en équipe. On a besoin de travailler avec chaque membre à sa place, fonctionnant dans sa grâce, avec une contribution mutuelle à l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, vous avez besoin les uns les autres. Ensemble, la puissance de Dieu va agir infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou demander. Combien de vous vraiment vous aimeriez voir la puissance de Dieu agir infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer? Moi, j'ai une grande imagination. Moi, je peux imaginer des centaines et des milliers de personnes à Drummondville sauvées et délivrées. Je peux imaginer des personnes qui habitent à côté de chez vous, en face de chez vous, les couples qui sont prêts à se séparer, ou les personnes qui sont malades, qui ont besoin de guérison. Moi, je peux imaginer pas juste quelques-uns, mais des dizaines, des centaines et littéralement des milliers de personnes à Drummondville qui en 2009 vont venir à Jésus-Christ. Ils vont avoir leur vie sauvée, ils vont avoir le mariage restauré, ils vont avoir le corps guéri, ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont devenir des disciples de Jésus-Christ, ils vont commencer à partager la bonne nouvelle avec les autres. Moi, je peux vraiment imaginer un grand réveil à Drummondville. Et vous? Et laisse-moi vous dire une chose. Ça va arriver si nous travaillons ensemble, parce que la puissance de Dieu agit à travers nous qui croyons. Et la chose qui peut détruire cette œuvre, c'est la division. Et si on est résolu, tout le monde dit, je suis résolu de protéger l'unité de notre Église. Donc, on va reconnaître que Dieu règne sur tous, c'est pas à moi de juger les autres. Je vais reconnaître que Dieu agit par tous. En Corinthiens 12, 21 dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc moi, je crois que si on est capable de, en 2009, et 2010, et 2011, si on est encore là, de reconnaître Dieu est le maître de tous ces hommes et femmes, mais Dieu agit en eux. Savez-vous que, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit agissait à travers Jésus pendant son ministère terrestre? Il allait de mieux en mieux, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, mais il y avait juste une chose. Rendu dans sa propre ville, là, il ne pouvait pas faire des miracles. Parce que les gens ne l'ont pas reconnu. Les gens ont dit, ça c'est juste le fils de Joseph et Marie, nous connaissons ses sœurs, ses frères. Et la Bible dit que même la puissance de Dieu qui était en Jésus ne pouvait pas se manifester. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Vous avez quelque chose dans votre esprit, un don de Dieu, une onction de Dieu, une capacité qui vient d'en haut. Et si moi, et si vos frères et vos sœurs sont capables de reconnaître ce don, et reconnaître que Dieu agit en vous, on va donner libre cours à ce don. Mais si on dit, je n'ai pas vraiment besoin de lui, ou pour qui est-ce qu'il se prend? Comment est-ce qu'il ose faire cela? Moi, je le connais depuis longtemps, et Si on a cette attitude, on va tuer l'œuvre de Dieu dans notre Église. Mais si on a une attitude d'humilité et d'unité, on va donner libre cours. Amen. Puis une autre chose qu'on voit dans ce verset, qui règne sur tous, agit par tous, demeure en tous. Reconnaissez que Dieu demeure en tous. Verset 16 de 1 Corinthiens 3 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Tout le monde dit, « Je suis le temple de Dieu. » On a besoin de cette révélation. Dieu demeure, il habite en nous. Et si je suis conscient du fait que Dieu habite en vous, c'est avec révérence, c'est avec crainte et tremblement que je vais agir. Si je sais que, bon, vous êtes comme une page dans cette Bible, collée ensemble avec moi, je ne veux rien faire pour mettre la division, pour vous séparer d'avec les autres. Je ne veux rien faire pour donner une chance au diable de nous détruire. Je veux marcher dans l'humilité. Je veux marcher aussi dans l'unité de l'esprit. Amen. Encore, je suis résolu de garder l'unité de l'esprit. Et puis finalement, troisième chose aujourd'hui. On a besoin de faire ces trois choses selon l'Éphésiens chapitre 4. Marcher dans l'humilité, protéger l'unité. Et puis finalement, grandissons à la maturité en Christ aussi. Grandissons à la maturité. On a trop de bébés qui sont supposés d'être adultes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a plusieurs versets qu'on va lire, et puis on va terminer avec quelques points très, très pratiques aujourd'hui. Grandissons dans la maturité. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier. Tout le monde dit, j'ai reçu un don. Amen. L'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers. Il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. Vous savez que notre Seigneur Jésus, il remplit tout l'univers aujourd'hui? C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. C'est qui a fait ces dons? C'est Jésus. Croyez-vous que si Jésus nous donne un don, que c'est digne de recevoir, c'est une bonne chose de le recevoir? C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Voulez-vous croître? Voilà, verset 13. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble, tout le monde dit tous ensemble, à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, nous deviendrons des adultes. Vous ne serez plus des bébés, amen, dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par des vagues, ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Verset 15. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons. Tout le monde dit, nous grandirons. On va le dire encore, nous grandirons. Mais nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme en tout solide, bien uni par toutes les articulations. Savez-vous que vous êtes une articulation dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, est-ce que vous êtes dans le corps de Christ? Vous avez quelque chose à faire. Il faut que vous fonctionniez comme il faut. Donc, comme elle doit, le corps entier fait quoi? Grandit et se développe par l'amour. Cœur à cœur ce matin, encore, je sais. C'est un peu différent ce matin, mais c'est super simple et super important, qu'est-ce que j'ai à dire. Nous avons besoin de prendre une résolution, de marcher dans l'humilité, de protéger l'unité et de grandir ensemble. Moi, je veux voir cette Église grandir. Moi, j'ai la conviction que nous ne sommes pas appelés à être une petite Église. au coin de Mélenchon et Ringuette. Je crois de tout mon cœur que nous sommes destinés à être une grande église qui va donner naissance à d'autres églises dans la province et même ailleurs dans la francophonie. C'est le plan de Dieu, c'est pas mon plan, c'est pas mon idée. C'est son plan. Sauf que le plan de Dieu ne va pas s'accomplir automatiquement. Si on ne marche pas dans l'humilité, Dieu va nous résister, parce qu'il résiste aux orgueilleux. Si on ne marche pas dans l'unité, le diable va nous détruire. Amen. Et si on ne grandit pas, on ne va pas arriver à la maturité. Vous savez, c'est seulement encore, si on parle humainement, encore adulte qui peut donner naissance à un autre enfant, n'est-ce pas? Les enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans n'ont pas la capacité de reproduire. Et savez-vous quoi? L'Église n'a pas la capacité de reproduire non plus s'ils restent enfants. Et le Seigneur veut qu'on soit une Église glorieuse, victorieuse, qui va donner naissance à d'autres églises, mais Dieu veut qu'on gagne les âmes et qu'on fasse des disciples. Mais pour faire cela, il faut qu'on marche dans l'humilité, protège l'unité et qu'on grandisse ensemble. Donc, ma résolution pour 2009, ça c'est une chose que je vais faire et je vous invite à le faire avec moi. Toutes ces choses qu'on voit dans Éphésiens 4, quelque chose que j'aimerais vous inviter à méditer, à considérer. Et pas sur. Et c'est pourquoi le ton aujourd'hui, c'est un peu plus relax, c'est ce que vous avez remarqué. Mais je veux que ça soit un peu plus, pas triste, mais sobre, dans le sens que c'est sérieux. Je ne veux pas juste prêcher un message où tout le monde dit « Wouhou, youpi, gloire à Dieu, merveilleux, c'était un bon message ce matin. » Oui, c'était quoi? Je m'en souviens plus. Mais je veux que ça soit quelque chose de simple, mais profond, où avec l'aide du Saint-Esprit, on dit « Oui, Seigneur, cette année, j'ai pris une résolution à marcher dans l'humilité, à protéger l'unité et à grandir à la maturité. » Donc, pour faire cela, voici quelques suggestions pratiques tirées directement de ces versets. Premièrement, je m'engage à me laisser perfectionner par des dons du ministère. Dieu a donné les dons à l'Église. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les évangélistes, les docteurs, les enseignants. Il a donné les 5 dons du ministère à l'Église. Et sans les dons du ministère, on ne va pas grandir ou atteindre le maximum de notre potentiel. Donc, je vais prendre une décision. Moi, personnellement, j'ai des hommes de Dieu qui parlent dans ma vie. Et je suis résolu cette année, plus que jamais auparavant, de prendre du temps, de les écouter et d'apprendre de ces hommes de Dieu. Amen. Moi, en tant que pasteur, je me suis engagé à donner le meilleur de moi-même pour vous aider à grandir aussi. Donc, je vous invite à ne pas venir à l'église écouter juste un homme, Ken, mais de vraiment dire, Seigneur, merci que tu as donné un don à cette église. Et Seigneur, à chaque fois que je vais, on va recevoir. Il y a d'autres personnes dans cette église qui sont appelées à exercer un ministère de la parole aussi. Et à chaque fois que nous sommes dans une situation où on a l'occasion de recevoir un don de ministère, on doit dire, Seigneur, merci pour ce don. Merci pour cette onction. Je ne veux pas juste écouter l'homme, mais je veux écouter ce don de Dieu. Et je veux recevoir de son onction, parce que cette onction va m'aider à grandir, croître et arriver à la maturité. Amen. Et si on honore les dons comme ça, on va grandir. Je m'engage, deuxième chose, à grandir dans la connaissance du Christ. C'est-à-dire que je veux connaître Jésus-Christ plus à la fin de 2009 qu'au début de 2009. Et vous? La connaissance, on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle forcément non plus. Parce que la Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. On parle d'une connaissance qui est vraie. Comme Paul a dit, il voulait le connaître dans la puissance de sa résurrection et aussi dans la communion de sa souffrance. Moi, je veux vraiment connaître Jésus. Combien de vous voulez vraiment connaître Jésus? Pour le connaître, il faut passer du temps avec lui, n'est-ce pas? Moi, je connais ma femme très bien. Pourquoi? Parce que on se connaît depuis l'âge de 17 ans. Et j'ai passé presque toute ma vie avec elle, et si c'est à moi de décider, je passerai 24 heures sur 24 avec elle. Je la connais, je sais comment elle pense, je sais qu'est-ce qu'elle aime, je sais qu'est-ce qu'elle n'aime pas, même avant qu'elle demande. Je sais. Et savez-vous quoi? On doit être comme ça avec Dieu. N'est-ce pas? Nous devrions savoir tout de suite qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. La chose qui fait plaisir au cœur de Dieu et les choses qui ne lui fait pas plaisir. Les gens de parole qui vont être agréables à lui, ou les gens d'action qui vont lui plaire, les choses qui ne vont pas lui plaire. Amen? Nous avons, et la seule façon d'avoir cela, c'est de le connaître. On le connaît comment? En passant du temps dans la parole, en passant du temps dans la prière, et en développant une vie de prière où 24 heures sur 24, on pratique la présence de Dieu. Donc, je m'engage à grandir dans la connaissance du Christ. Et avec cela, on peut prier même. Seigneur, je prie que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je ne veux pas que ça soit une connaissance intellectuelle. Moi, je connais des choses à propos de Napoléon. Je connais des choses à propos de Charles de Gaulle. Je connais des choses à propos de Abraham Lincoln. Je connais des choses à propos de beaucoup de personnages, de l'apôtre Paul. Je connais des choses à propos de l'apôtre Jean. Mais est-ce que je le connais? Non. Et si vous connaissez Jésus seulement de la même façon que vous connaissez Paul ou Jean ou tous ces autres personnages historiques, vous passez à côté du but. Le but, c'est d'être en communion avec un Dieu vivant. Jésus est vivant, il habite en vous. Donc, je m'engage à grandir dans la connaissance de Christ. Je m'engage à proclamer la vérité avec amour. Je ne veux pas dire les choses pour blesser les autres, qu'aucune parole mauvaise sorte de votre bouche, mais seulement les paroles qui sont pour l'édification et qui communiquent une grâce, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez imaginer si cette année, 2009, vous garderez cette résolution et vous ne dites que la vérité avec amour. Allô? Jamais des mensonges et jamais la vérité d'une façon méchante. Vous savez, on peut dire des choses qui sont vraies, mais d'une manière méchante, et ça, c'est pas bon non plus. Amen? On a tous besoin de s'engager à proclamer la vérité avec amour. Puis, je m'engage à rester attaché à Christ qui est la tête. Donc, Seigneur, merci. Je vais demeurer en toi. Tu vas demeurer en moi. Je reste attaché à Jésus-Christ qui est la tête. C'est-à-dire que je reste soumis à son autorité aussi dans ma vie. Je m'engage à remplir ma fonction dans le corps de Christ. C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Regardez votre corps. Regardez votre main. Regardez votre bras. Avez-vous remarqué quelque chose? Votre main est attachée à votre bras. Wow! J'ai dit que j'avais vraiment des grandes révélations ce matin. Votre main est attachée à votre bras. Regarde quelqu'un à côté de vous et dis, votre main est attachée à votre bras. Et essayez de ne pas être trop étonné. Oh, wow! Je ne savais pas! Le message est tellement simple. C'est presque trop simple parce que les gens passent à côté d'une vérité ici. Il faut que vous vous engagiez à remplir votre fonction dans le corps de Christ. Votre fonction est nécessaire. C'est important. Encore, si je veux que mon biceps soit plus fort, il va falloir que je fasse des exercices, n'est-ce pas? Donc, je peux aller au gymnase et je peux faire des répétitions. Mais si mes mains ne veulent pas coopérer, imaginez si mes mains, ou si vous mettrez quelque chose sur mes mains pour que mes mains ne soient plus capables de prendre ou de saisir la haltère, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mes mains ne fonctionnent pas, donc parce que la main ne fonctionne pas, je ne peux pas contribuer à la croissance de mon bras. Allô? Quand chaque partie fonctionne comme elle doit, elle contribue à la croissance du corps. Si vous ne faites pas ce que vous êtes supposé de faire, vous ne contribuez pas à la croissance des autres membres. Et si les autres membres qui sont directement attachés à vous ne font pas qu'est-ce qu'ils, même s'ils veulent le faire, ils peuvent pas parce que vous ne fonctionnez pas. Amen. Donc, ils sont limités. Il faut qu'ils trouvent un autre moyen de faire les répétitions. C'est mal commode. Et c'est moins efficace. Donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe? La main ne fonctionne pas, le bras ne peut pas contribuer à la croissance. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous engager à remplir votre poste et à accomplir votre fonction dans le corps de Christ cette année? Tout le monde dit, je m'engage à remplir ma fonction dans le corps de Christ. Et puis, dernière chose, je m'engage à grandir et faire grandir les autres dans l'amour. J'aime beaucoup ce verset qu'on a lu en Éphésiens 4, qui dit « Le corps entier grandit et se développe dans l'amour. » Dans l'amour. Avez-vous remarqué? Le corps ne se développe pas dans la compétition. Allô? Le corps ne se développe pas dans la compétition. Le corps ne se développe pas dans la chicane. Le corps ne se développe pas dans un esprit de zèle amer. Le corps s'édifie et croît dans un esprit d'amour, dans une atmosphère d'amour. Encore, c'est sobre ce matin, mais c'est important. Donc, le Seigneur, je crois de tout mon cœur. Je priais là-dessus. Je dis, Seigneur, c'est quoi le message? C'est quoi que tu veux que je fasse? Tu veux que je sois là le 28 décembre? Pourquoi? Il y a une raison. De un, juste pour que vous sachiez que je vous aime et je suis là avec vous. De deux, Dieu veut qu'on sache que des bonnes choses s'en viennent pour 2009. Mais toutes les choses qu'il a planifiées ne vont pas s'accomplir à moins qu'on soit résolu. Je savais, je m'attendais à ce qu'on serait moins nombreux aujourd'hui. Parce que c'est toujours comme ça après les fêtes. On a toujours des gens de l'extérieur et moins du monde. Mais dans un sens, c'est correct comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un message destiné surtout à nous, l'Église, aux chrétiens qui sont déjà dans le corps de Christ. Peut-être qu'il y en a ici qui ne sont pas encore dans le corps de Christ. On va vous donner une occasion de le faire. Mais le message est un peu différent. Le but est un peu différent ce matin. Et je m'attendais à ça. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on réalise que des grandes choses s'en viennent. Mais ces grandes choses ne vont pas se réaliser à moins qu'on soit résolu. Résolu de marcher dans l'humilité, de protéger l'unité et de grandir à la maturité. On ne peut plus rester bébé. Jésus revient. Amen. Donc, maintenant vous avez un choix à faire. Donc, Fanny, tu peux venir peut-être au piano, s'il te plaît. On a un choix à faire. Nous avons une décision à prendre. Alléluia. Et je veux vraiment, on va se lever debout. On va prier ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Encore, je vous donne un bon menu ce matin. Je vous invite à prendre cela avec votre Bible. Ouvrez cela, méditez ces versets, soulignez les choses, priez là-dessus, déclarez les choses de votre bouche. Ces déclarations que je vous ai données, ma résolution pour 2009, je m'engage à me laisser perfectionner par les dons du ministère. Je m'engage à grandir dans la connaissance de Christ. Il y a des versets en parenthèse après chacun. Lisez cela cette semaine. Méditez ces choses. Je m'engage à proclamer la vérité avec amour. Je m'engage à rester attaché à Christ qui est la tête. Je m'engage à remplir ma fonction dans le corps. Et je m'engage à grandir, à faire grandir les autres dans une atmosphère d'amour. Donc, Seigneur, merci. Juste prenons une minute. Fermons les yeux juste pour une minute. Examinons notre cœur. Seigneur, nous voulons prendre une résolution. La fin de 2008 s'en vient. On a juste quelques jours qui restent. Nous te remercions pour les bonnes choses que tu as fait. Nous te remercions pour ton aide à travers les temps difficiles. Merci pour toutes les victoires qu'on a vécues. Mais Seigneur, 2009 s'en vient. Et nous ressentons dans notre cœur que tu veux faire une nouvelle chose, Seigneur, dans notre Église. La vision que tu nous as confiée de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie au-delà, c'est ta vision. C'est pas la vision du pasteur, tu l'as juste confié au pasteur. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons examiner notre cœur ce matin, sonder notre cœur et voir, est-ce que je marche dans l'humilité? Est-ce que je protège l'unité? Et est-ce que je fais des efforts pour grandir à la maturité? Cette année, je veux le faire. Oh, alléluia, juste prions là où vous êtes. Parlez avec le Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, montre-nous les domaines de notre vie où on a besoin de changer, de faire des réglages, ajuster les choses, Seigneur. On veut grandir. On veut devenir grand, Seigneur. Mature, inébranlable. Et enraciné en toi, Seigneur. Merci, Père Céleste. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. On s'engage. On prend une résolution. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, gardons cette attitude de prière. Mais vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez. Je veux quand même donner une invitation ce matin. Peut-être vous êtes là, vous êtes maintenant. Pasteur, si je suis honnête, vous parlez de vous engager à Jésus et vivre pour Jésus et tout cela, mais honnêtement, je ne sais pas si je suis vraiment enfant de Dieu aujourd'hui ou non. Posez-vous la question, et je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà reçu Jésus dans votre cœur, dans votre vie? Si vous partez d'ici aujourd'hui, votre cœur arrête de battre, vous tombez, votre esprit, votre âme quitte votre corps. Est-ce que vous avez une assurance, sans aucun doute, que vous irez directement au ciel? Vous dites, oui, j'espère. Espérer, c'est pas assez. Vous dites, mais je suis une bonne personne. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est aussi bon pour aller au ciel sans Jésus. Vous dites, oh, mais je prie. Les personnes dans toute la religion prient. C'est pas assez non plus. Vous lisez la Bible, vous allez à l'église, vous pouvez faire toutes ces bonnes choses. Et ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. La seule et unique façon de devenir enfant de Dieu, c'est de recevoir le don gratuit de Jésus-Christ, de la vie éternelle pour lui. Et la Bible dit, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc je vais compter à trois, et si vous êtes là, vous avez besoin ce matin de donner votre vie à Jésus, n'oubliez pas, Jésus-Christ a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. Aujourd'hui, sondez votre cœur. Avez-vous besoin de cette assurance aujourd'hui, de savoir sans aucun doute que vous êtes enfant de Dieu? Qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? Quand je tape ma main, levez la main. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne ici. Quelqu'un d'autre? Juste levez la main. Tu veux venir ici en avant? On va prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de venir dire, oui, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Ton nom, c'est Stéphane. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Stéphane ce matin? Quelqu'un d'autre qui a besoin de venir ce matin? On va faire une prière, Stéphane, et j'aimerais que tout le monde prie avec moi. Je te répète cette prière, prie-moi de tout ton cœur. Père Céleste, je viens à toi. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, mais qu'il est ressuscité. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Mes péchés ont été lavés. Ils n'existent plus. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais vivre pour toi, au nom de Jésus. Amen. Merci Stéphane, je te félicite. On a quelqu'un ici, Sylvain, qui a une Bible qui aimerait t'offrir comme un cadeau. Donc, si tu veux, je vais prendre une minute avec lui. On a une petite salle juste en arrière de la porte là. Il peut vous donner une Bible, répondre aux questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait besoin de faire cela? Sinon, on va tous prier ensemble ce matin et puis on va chanter un dernier chant. Alléluia. Soyons résolus. Soyons résolus. Soyons résolus. Ne laisse pas la chair vous empêcher de faire qu'est-ce que vous avez besoin de faire cette année. Ne laisse pas l'ennemi semer des doutes, semer la division. On va marcher avec humilité, protéger l'unité et grandir à la maturité en 2009. Amen. Donc on va prier ceci ensemble. Merci Père. Aujourd'hui, je m'engage à marcher dans l'humilité, à protéger l'unité et à grandir à la maturité. Au nom de Jésus, ensemble, en 2009, nous allons faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Nous te remercions en avance pour des centaines et des milliers de personnes qui vont être touchées parce que nous avons pris une résolution de marcher dans l'humilité, dans l'unité et dans la maturité. Au nom de Jésus, amen. Tu as quelque chose, Franck? Vois-tu, le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Donc, si vous avez été piégé, et si vous avez commencé à coopérer avec l'ennemi pour critiquer ou pour juger ou quoi que ce soit, aujourd'hui, repentez-vous, demandez pardon. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte et couvre une multitude de péchés. Pardon. Merci, Père Céleste. Donc, Seigneur, merci que nous n'allons pas critiquer ni juger les autres, mais nous allons tomber en amour avec toi. Nous allons tomber en amour, Seigneur, avec ta famille. Nous allons, Seigneur, être tellement remplis de joie. Laisse-moi juste vous dire ceci. Dans la prière, et je vais partager un peu la semaine prochaine, en plus en détail, on a eu plusieurs choses. La simplicité, le fait que Dieu veut nous émonder, mais aussi le fait qu'on a besoin de travailler en équipe avec joie. Mon désir, c'est que l'Église soit tellement remplie de joie, que quand les gens vont franchir la porte, ils vont ressentir l'amour de Dieu, la joie de Dieu, que tout le monde va vouloir être ici. Ça ne serait pas un fardeau de venir à l'Église, mais c'est le fun, c'est un privilège. Et encore, si on peut bannir toute atmosphère de critique, de jugement, déjà, on va être pas mal d'avance, n'est-ce pas? Déjà là, juste le fait que les gens peuvent venir ici et se sentir en sécurité, que ce n'est pas une place où les gens vont parler dans le dos des autres, mais c'est une place où on va s'édifier mutuellement. On va parler en bien de nos frères et de nos sœurs. On va s'entraider, s'encourager à aller de l'avant. Gloire à Dieu. Amen. Je vous aime. Et on va chanter la dernière chanson.